Bonsoir et bienvenue à vous tous, habitués du Centre Sèvres ou un peu nouveaux venus. Merci de votre présence, elle dit l'intérêt pour la parole d'une femme sur l'islam, d'une femme qui vit de l'islam et qui pense l'islam. Bienvenue pour cette soirée organisée par le département religion et spiritualité du Centre Sèvres, dont je suis la responsable, c'est pour ça que je suis à la table, mais c'est la parole de Naïla qui va être importante. Merci à toi, Naïla. Merci beaucoup d'être venue parmi nous ce soir. Je te laisserai te présenter toi-même comme tu le souhaites, un peu plus que sur les choses que je pourrais dire. Mais je voudrais souligner ma grande joie de t'accueillir ici. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que tu viens au Centre Sèvres. Et justement, sous l'égide de notre département religion et spiritualité, qui entend permettre une ouverture pour mieux connaître les autres traditions que le christianisme, pour s'ouvrir par une approche sérieuse et respectueuse aux autres voies spirituelles, pour se laisser interroger, se laisser enrichir, se laisser transformer par la rencontre. Donc ta présence est très importante dans ce cadre-là. Tu es libanaise, musulmane. Ton parcours spirituel t'a permis une foi et une expérience très personnelle. Tu es aussi universitaire, puisque tu es l'auteur d'une thèse de doctorat de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et de l'École pratique des hautes études, sous la direction du professeur Pierre Lory, qui est ici et qui enseignera ici l'an prochain. Thèse sur l'itinéraire spirituel à partir des commentaires soufis de la sourate de la caverne. Tu es co-auteur d'un livre sur l'hospitalité divine, écrit avec un prêtre maronite, Fadi Daou, sur l'accueil mutuel entre islam et entre musulmans et chrétiens, plutôt qu'entre islam et christianisme. Tu es cofondatrice avec lui de l'association ADIAN, qui veut dire les religions, association qui travaille maintenant au niveau mondial à la promotion de l'altérité religieuse. Vous avez reçu l'an dernier le prix Nivano pour la paix, prix qui vous a été remis au Japon et qui dit la reconnaissance pour le travail que vous faites. Tu es auteur avec Marie Malzac, journaliste chez Bayard, de l'islam pensé par une femme. Je vous dis tout de suite que le libraire va arriver en fin de rencontre et que vous pourrez bien sûr vous procurer le livre et demander à Naïla de le signer pour vous. Je suis heureuse de te laisser maintenant la parole pour que tu puisses, en à peu près 45 minutes, mais on a le temps, nous faire percevoir l'importance que l'islam soit pensé par une femme. Nous dire peut-être les points forts que tu voudrais souligner à propos de ce que la réflexion et la parole d'une femme peuvent avoir d'original et peuvent apporter aujourd'hui à l'islam, pour que tu puisses aussi nous donner un écho de la manière dont cette parole, dont cet écrit est reçu, puisque tu l'as déjà présenté en un certain nombre de lieux, et évidemment tout ce que tu aurais envie de nous dire, toi, femme musulmane, universitaire et engagée au plan social. Après ces 45 minutes d'intervention par Naïla, nous aurons évidemment un temps d'échange et de débat, participation par des réflexions ou questions, et nous aurons donc un bon temps de dialogue avec Naïla. Merci beaucoup par avance.
Merci Sylvie, bonsoir tout le monde. Puisque tu m'as dit que je peux dire ce que j'ai envie de dire, premièrement je te remercie de m'avoir invitée ici et j'ai envie de dire aussi que j'ai été très heureuse de te rencontrer il y a un an quand tu as visité le Liban. Tu m'avais écrit avant de venir et j'étais, parce qu'à notre fondation Adia nous travaillons beaucoup et donc c'est tout le temps en cours d'un lieu à l'autre, et puis je me suis dit voilà, elle a l'air très intéressante. Il faut que j'essaye de trouver un petit moment, mais en courant, en fait. Et quand Sylvie est arrivée, c'était vraiment un moment qui était sorti un peu du temps. Donc, on a eu une bonne heure de calme, de calme, de paix, de sérénité. C'était vraiment, c'est ta présence.
On s'est vu deux fois.
Et on s'est vu deux fois à ce moment-là parce que cette présence apporte de la paix. Et surtout quand on discutait ou on parlait tellement en profondeur. Oui. De nos foi respectives et de nos expériences spirituelles. Et peut-être aussi de cette expérience spirituelle qui s'enrichit à la rencontre de l'autre, à la rencontre de l'expérience spirituelle et de la richesse sapientielle et spirituelle des autres religions. Comme l'a dit Sylvie, mon parcours est un parcours universitaire, donc j'ai eu la chance de faire une thèse de doctorat avec Pierre Lory sur l'itinéraire spirituel d'après les commentaires coraniques. Et suite à cela, ou presque au même moment où je finissais la thèse, nous avons cofondé la Fondation Adian au Liban avec Père Fadida, au prêtre maronite. À ce moment-là, je travaillais surtout donc les sciences coraniques, le tafsir, mais pas encore la théologie. Et au tout début de la Fondation Adian, Père Fadi, donc le cofondateur d'Adian, avait écrit un article qui s'intitulait « Chrétiens et musulmans du Proche-Orient arabe, quelle rencontre ?» Et c'était une esquisse théologique. Et il terminait son article en disant « c'est la moitié de la réflexion, parce que cette réflexion a besoin de la réflexion de l'autre côté, réflexion musulmane ». Entre-temps, moi j'avais eu une expérience dans le dialogue, dont une bourse à Rome, une bourse qui est décernée à des non-chrétiens pour aller étudier 6 mois la théologie catholique à Rome. Et là-bas, en tant que musulmane, j'étais la musulmane qui étudiait dans 3 universités, et en tant que musulmane, j'avais besoin de savoir, en tant que musulmane, comment être, quel genre de relation je pouvais avoir avec les autres, avec les chrétiens, est-ce que je pouvais participer aux messes ou non, et donc la réflexion sur la rencontre, la réflexion sur le dialogue ou bien la perception de l'islam sur l'autre avait commencé à ce moment-là, avant cela, c'était en 2001. En 2006, à la lecture de l'article donc du Père Fadi, c'est à ce moment-là où je me suis posé la question, est-ce que j'essaye de faire un article donc ou une réflexion théologique de l'intérieur de l'islam, tout en sachant que mes études sont des études donc en sciences des religions. J'ai étudié bien sûr chez des cheikhs, chez des imams, mais je n'ai pas fait les études islamiques traditionnelles. Donc, est-ce que j'ai le droit d'écrire la théologie? Mais moi, en tant que croyante, j'avais besoin de réponses que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas de théologie des autres religions qui répondent ou qui prennent en compte tous les versets du Coran qui parlent de l'autre. Parce que je trouvais qu'il y avait deux genres de réponses ou de réponse théologique, soit une réponse qui disait voilà, l'islam est ouvert, c'est une religion de paix, nous acceptons les autres religions, elles sont mentionnées dans le Coran en mentionnant quelques versets qui appellent à l'ouverture, stop, et d'autres qui prenaient les autres versets qui appellent à la méfiance, à la guerre, et en disant que voilà, l'islam considère les autres comme infidèles et relation de méfiance, de guerre, stop. Donc pour moi, il fallait prendre tout en compte. Et c'est comme ça qu'a débuté mon travail en théologie. Et c'est ce qui a fait qu'on a fait donc le livre sur la théologie de l'autre. L'année passée, ou un peu avant, Anne-Bénédicte Hoffner, qui est journaliste à La Croix, avait fait un livre intitulé « Les nouveaux acteurs de l'islam ». C'était comme un tome 2 aux « Les nouveaux penseurs de l'islam » de Rachid Benzine, mais elle voulait plutôt donc des profils de gens qui œuvrent sur le terrain. Et donc, elle avait choisi aussi d'écrire un chapitre sur moi. Et c'est comme ça que Bayard donc a vu ce profil et m'a demandé d'écrire un livre sur islam et femmes en me proposant une méthodologie qui était toute nouvelle pour moi. Vous avez vu que c'est donc avec Marie Malza qui est journaliste à La Croix et que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et donc on me propose de travailler avec Marie, pas en question-réponse, mais c'est un livre-livre où ce sont mes idées, c'est des chapitres, mes idées, mais écrit par elle. Donc écrit par sa plume. Et au tout début, moi, je me disais, ça va être comment je vais pouvoir faire. Et puis après, en fait, j'ai découvert que c'était, je ne veux plus faire des livres que comme ça, en fait, parce que ça a fait que c'est un langage beaucoup plus fluide que le mien, qui est dans le livre. Et en fait, le dialogue qui se faisait dans le livre, quand on écrivait. Qui était très enrichissant pour moi et qui m'aidait à clarifier ma pensée, à expliquer quand je croyais que c'était donné alors que ce ne l'était pas. Et donc, c'était une méthodologie très enrichissante. Donc, premièrement, cette méthodologie. Deuxièmement, donc, islam et femme. Et c'est là où j'ai dit à Bayard, j'accepte, mais à une condition. Je n'écris pas seulement sur les femmes. Je suis théologienne, je travaillais déjà sur la question de la diversité. Aujourd'hui, nous avons un problème, que ce soit en monde musulman ou en monde non musulman, que quand on veut que les femmes, ou les surtout femmes musulmanes, parlent de questions religieuses, on les limite aux questions relatives aux femmes. On les limite aux questions relatives aux femmes. Alors pour moi, c'était très très important de dire non. Une femme théologienne est théologienne, tout comme un homme théologien est théologien. Il ne va pas parler des histoires d'hommes quand il écrit. Il va parler de tout. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu faire donc un livre intitulé donc l'islam pensé par une femme pour dire c'est tout l'islam. Pas tout l'islam bien sûr, mais je veux dire que pour ne pas être réduite seulement à parler de la question des femmes. Bien sûr, la question des femmes est très, très importante. Et il y a un chapitre ici, dans le livre, sur le féminisme islamique qui existe depuis les années 80, où il y a des femmes qui combattent pour une nouvelle interprétation du Coran, pour changer les lois, et pour une présence aussi de femmes dans la vie religieuse, en tant qu'autorité religieuse, elles aussi. Donc il y a tout ça. Et cela est ici dans ce chapitre, mais j'ai voulu aussi dans ce livre parler d'autres questions de théologie politique et sociale, de théologie de l'autre, donc en réduisant aussi dans un chapitre ce qui était dans un premier livre, de théologie de la fragilité humaine, et j'en parlerai un peu tout à l'heure, de l'islam, ce que ça signifie, et de ce qui inspire les musulmans, mais aussi surtout de Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que pour moi, en fait, et c'est pour cela que j'ai voulu aussi intituler l'islam pensé par une femme, c'est parce que, en fait, l'interprétation de l'islam a été faite au cours des siècles et jusqu'à récemment par des hommes. Ce qui fait que on a une interprétation qui est patriarcale et qui n'a pas pris en compte un point de vue de femme. Pour dire que, en fait, personne n'a une interprétation universelle. Un homme va regarder les choses du point de vue d'un homme et une femme va regarder les choses du point de vue d'une femme. Même si on essaye d'élargir et regarder du point de vue de l'autre, mais chacun de nous, son contexte, ce qu'il est, influence sa manière d'interpréter et d'expliquer. Et donc, jusqu'à maintenant, véhiculer l'idée que toute interprétation qui a été faite par des hommes est universelle, elle est importante, elle répond à tout, alors que la femme, elle va répondre aux questions des femmes. Et donc, pour dire que non, ni l'un ni l'autre ne peut répondre à tout. Chacun de nous a son point de vue à donner. Ça, c'est de un. De deux, j'ai, en fait, ça se voit dans le premier chapitre où je parle du divin. Et je remercie Pierre-Laurie qui m'a fait aussi remarquer l'importance de ce lien, en fait, entre la grammaire et l'imaginaire. Il m'a aidé à formuler ce que j'essayais de dire. Que, en fait, chaque fois que nous utilisons il, lui, donc grammaticalement, quand on appelle toujours Dieu au masculin, on finit, sans nous en rendre compte, par masculiniser Dieu. Or, l'islam est une religion qui refuse l'anthropomorphisme, qui appelle toujours à la transcendance divine. Mais cependant, quelque part dans nos têtes, dans nos mentalités, on a tellement appris Dieu, il, lui, qu'on a fini par voir Dieu au masculin et expliquer la religion au masculin. Et les dérives de cette explication ont fait qu'on a une tendance à l'intérieur de l'islam qui est une tendance trop légale, dominatrice parfois, exclusive de l'autre aussi, exclusive des femmes parfois. Donc, c'est une des dérives de cette patriarcalisation donc de la religion et d'une masochisation de la religion. Machisation. Ah, pardon, pas machisation. Merci. Non. D'accord. Alors, en revenant donc dans le premier chapitre, en fait, je commence le premier chapitre par le choc que j'ai eu moi-même quand j'ai entendu une penseur musulmane dire un jour « Au nom de Dieu, la clémente, la miséricordieuse ». Et moi, c'était « Oh, c'est quoi ça ?» Et en fait, et je me suis dit « Pourquoi ?» En fait, nous avons toute une tradition à l'intérieur de l'islam, surtout soufi, où Dieu est appelé par des noms féminins dans les poèmes soufis, dans les poèmes d'amour soufis. Dieu est appelé Layla, Azza, Sulaima, donc des noms féminins à Dieu. Nous avons aussi dans le soufisme beaucoup de soufis qui parlent de l'essence divine. Donc quand ils parlent de l'essence divine, c'est elle, c'est au féminin. Donc ça nous rappelle un peu que Dieu est au-delà du genre. Nous avons aussi dans la tradition musulmane les noms de Dieu, les 99 noms de Dieu. Ces noms de Dieu sont divisés en noms de beauté et noms de majesté. Les noms de beauté sont les noms comme, par exemple, le miséricordieux, le sustentateur, celui qui protège. Donc, tout ce qui est plutôt maternel. Donc, il y a une portée féminine, maternelle. Et les noms de majesté sont les noms de force, de puissance. Donc, c'est les noms qui ont une portée plutôt donc paternelle, masculine. Et donc, déjà, dans les noms de Dieu, nous avons ces deux aspects. Donc, pour moi, il est nécessaire de rappeler que Dieu est au-delà du genre. Et que c'est nous qui avons masculinisé le divin et masculiniser les religions en masculinisant le divin. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, j'essaye aussi de réexpliquer ce que signifie l'islam. Parce que parfois, même dans la traduction, nous traduisons généralement islam par soumission. Or, le terme islam, la traduction correcte est comme taslim, c'est l'abandon confiant. Donc ce n'est pas une soumission, mais c'est un abandon, c'est la confiance. C'est la confiance qu'on a en Dieu qui nous permet de nous abandonner dans les mains de Dieu. Mais c'est un abandon qui est en même temps engagé. Et c'est pour ça que dans le chapitre 2 de ce livre, je vois que l'engagement auquel nous sommes appelés en islam est à trois niveaux. Un engagement avec Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu, dans un épanouissement spirituel. Parce qu'une religion ne peut pas être seulement rituelle. Il y a un engagement avec le divin. Il y a un engagement dans une réflexion continue. Et c'est ce à quoi nous pousse le texte coranique. Lorsque le texte coranique, ou lorsque la tradition, en fait c'est pas le texte, mais lorsque la tradition musulmane dit que l'islam ou le Coran est pour tout temps et pour tout lieu, ça veut dire qu'il est pour tout temps et pour tout lieu à travers l'interprétation qu'on en fait à tout temps et tout lieu. Il ne peut pas être pour tout temps et tout lieu compris aujourd'hui comme il était compris au 7e siècle. De la compréhension qui a eu lieu au 7e siècle, et puis on bâtit sur la compréhension qu'il y a eu au 7e siècle, 8e, 9e, donc tous ces siècles, et on bâtit avec une compréhension d'aujourd'hui. Des versets dans le Coran disent de ne pas croire comme croyaient nos pères. Donc, il dit ça, en fait, aux polythéistes, mais Muhammad Abdou, le grand réformateur de l'islam, explique cela comme aussi pour les musulmans. Nous ne pouvons pas croire comme croyaient nos pères. Nous avons besoin toujours de remettre à jour notre interprétation. Donc, premier volet, un engagement spirituel, un engagement donc intellectuel, un engagement de vivre aussi avec le texte, de penser le texte et d'avoir une relation dynamique avec le texte en le réinterprétant à chaque contexte et chaque nouvelle période. Et troisièmement, un engagement dans l'action sociale. Parce que l'islam, comme religion, ne peut pas être uniquement rituel ou uniquement vécu seul. C'est une religion qui pousse à la solidarité, à l'engagement pour la justice et pour la dignité en fait humaine, et qu'on retrouve bien sûr dans les versets du Coran et dans l'histoire des débuts de l'islam. Parfait pour savoir comment. Je passe maintenant à la question de la femme. Aujourd'hui, quand on entend les médias, quand on veut dire quelque chose sur femme et islam, on a tout de suite en tête les versets problématiques. Donc les versets qui parlent donc soit de la polygamie, soit de la violence conjugale, soit de l'héritage. Qui est donc l'héritage de la fille qui est à moitié de l'héritage du garçon, soit du témoignage. Donc, c'est les versets problématiques dont on entend parler. Mais ces versets s'inscrivent dans tout un texte et qui a toute une histoire. C'est ce que viennent dire les féministes musulmanes. Donc, les femmes théologiennes féministes disent qu'il faut faire un zoom out. Et regarder le texte de nouveau et voir ce que dit le texte sur hommes et femmes. Et voir aussi les débuts de l'islam, comment le prophète Mohammed, lui aussi, a agi avec les femmes. Donc, lorsqu'on fait le zoom out, qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, la création. Le verset qui parle de création dit que Dieu a créé les hommes et femmes d'une seule âme et de cette âme a créé son époux. Si on veut être très, très extrémiste, on peut dire que voilà, le féminin, il vient avant le masculin. Parce que Dieu a créé d'une seule âme et de l'âme, il a créé l'époux. Bon. Mais en fait, si on ne veut pas aller dans cet extrême, mais on peut dire finalement que donc, le Coran est en train de dire qu'il y a une égalité ontologique. Nous avons été créés égaux. Il n'y a pas dans le Coran, la question de Ève qui vient de la côte d'Adam. Elle n'existe pas. Cependant, elle existe dans la tradition musulmane. Pourquoi? parce que les commentateurs sont allés récolter les commentaires de la tradition biblique. Donc, mais le texte coranique lui-même ne parle pas de ça. Il parle d'une égalité dans la création, donc d'une seule âme. La question de la chute. La question de la chute, aussi, dans le Coran, c'est soit la faute à Adam, soit la faute aux deux ensemble. Pas la faute à Ève. Alors que, dans la tradition, on entend beaucoup que c'est la faute à Ève, et bien sûr, donc on impute tout aux femmes parce que c'était la faute à Ève. Alors que ça n'existe pas dans le Coran. Donc dans le Coran, égalité, et puis égalité aussi dans la faute et dans la chute. Donc ce n'est pas la faute à Ève, sauf qu'on va retrouver ça dans les commentaires. Mais donc, ce qu'elles disent, les théologiennes féministes, qu'il faut, en anglais c'est « unreading », c'est enlever la lecture. Patriarcale qui a été faite. Interprétation patriarcale pour relire le texte avec de nouveaux yeux. Aujourd'hui. Donc, égalité, donc pas la faute à Ève dans la chute, égalité homme-femme dans, bien sûr, les droits et devoirs. Et il y a un verset qui dit que les hommes et les femmes sont responsables les uns des autres. Les uns sont responsables des autres à égalité. Donc, il y a une égalité sociale aussi, de responsabilité sociale. Donc, en prendre cela en considération nous permet de lire les autres versets dans ce cadre-là, avec ce zoom out. Nous avons aussi quelque chose de très intéressant, c'est que la révélation coranique, pendant un certain temps, était une révélation qui s'adressait aux hommes. Donc, il disait « Oh, vous les hommes » ou « Oh, vous les croyants ». Jusqu'à ce qu'une femme dise au prophète « C'est quoi ça? Pourquoi ton Dieu, il parle uniquement aux hommes? Pourquoi il ne parle pas aux femmes? » Et à partir de ce moment-là, on a une révélation plus nuancée qui vient dire « Oh, vous les croyants et les croyantes !» Donc, donc, s'adresser aux deux. Donc, on a tout ça. On a Dieu qui entend les femmes et qui répond dans la révélation. Donc, en prenant tout ça en considération, c'est à ce moment-là qu'on peut relire les autres versets problématiques à la lumière de leur contexte. Ça veut dire que le Coran, le message du Coran est un message d'égalité entre hommes et femmes, mais les autres sont à lire dans le contexte et ce qu'ils disent pour le contexte. Donc, ce que disent donc certaines des théologiennes féministe, c'est que, par exemple, la question de la monogamie, la question de la polygamie, elles disent que, en fait, l'idée derrière, ou le message coranique, c'est un message qui pousse vers la monogamie. Mais, dans un contexte où les hommes pouvaient aller jusqu'à épouser femme autant qu'ils voulaient, leur dire carrément non aurait été très choquant. Donc, il fallait s'y prendre graduellement. Tout comme la question de l'alcool, qui a été faite graduellement. Donc, s'y prendre graduellement comment? En limitant la question du mariage, de la polygamie, au cas où il y a des orphelins, et donc à la condition d'être lié, donc la polygamie à la question d'orphelin pour être juste envers les orphelins. Donc c'était en cas de guerre, après des décès d'époux, où certains hommes s'occupaient des enfants d'autres femmes. Donc pour ces orphelins, c'était la condition. Et donc cette condition première, puis le verset parle de « donc vous pouvez aller jusqu'à 4 », mais quelques versets plus loin dans la même sourate, vient le verset qui dit « vous ne serez pas équitable ». Donc le verset dit « si vous êtes équitable », le premier, donc vous pouvez aller jusqu'à 4 si vous êtes équitable, et quelques versets plus loin, vous ne serez pas équitable, ou vous ne serez jamais équitable. Donc si on lit dans le contexte, on comprend que c'est ça, le Coran est en train de parler au contexte, essayant de graduellement mener vers la monogamie et pas la polygamie, mais parce que ça a été expliqué par des hommes au Moyen-Âge, dans un contexte culturel qui prisait la polygamie, ça a été expliqué dans ce sens, sans prendre cela. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple est par exemple la question de l'héritage. Dans un contexte où la femme n'avait pas d'héritage, où la fille n'avait pas d'héritage, quand le Coran va dire que la fille hérite de la moitié de ce qu'hérite son frère, c'était déjà une révolution. Et donc, ce qui peut nous mener aujourd'hui à dire, comme par exemple ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, à dire que l'idée, donc, c'était de donner le droit aux femmes d'avoir un héritage. Et donc, nous pouvons pousser cette idée et dire qu'aujourd'hui, dans ce contexte, il faut donner une part égale d'héritage. Bien sûr, je simplifie, il y a beaucoup d'autres nuances pour chacune de ces questions. Donc, c'est un exemple de comment ces questions ont été reprises par les théologiennes féministes à la lueur de tout le message coranique concernant les femmes. Donc, repenser ces versets, mais à la lueur des autres et du contexte lui-même, pour les réexpliquer, pour réinterpréter. Parce que nous savons tous que c'est l'interprétation de nos livres sacrés qui peut nous mener dans cette direction ou l'autre. Nous avons aujourd'hui différents courants à l'intérieur de plusieurs religions. À l'intérieur de l'islam, nous avons différents courants. C'est l'interprétation que fait chacun qui les distingue les uns des autres. Très brièvement aussi, je vais mentionner la question de la théologie de la diversité. Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'était un travail que j'avais fait avant, que j'ai réduit donc dans ce livre. Et c'est donc fondé sur un travail où j'avais récolté tous les versets dans le Coran qui parlent de l'autre. Et en prenant tous les versets qui parlent surtout des religions qui sont appelées les religions des gens du livre dans l'islam, ça veut dire les chrétiens et les juifs, en prenant ces versets-là, j'ai remarqué, en fait, en les prenant tous, j'ai remarqué qu'il y avait deux registres. Un registre dans le Coran qui parle du dogme de l'autre, donc comment on perçoit la religion de l'autre, et un autre registre qui parle quel genre de relation avoir avec les autres. Au niveau du premier registre, ce qu'on remarque, c'est que, en fait, le Coran est en train de dire que la diversité est voulue par Dieu, que le salut est promis aux gens du livre, à tous ceux qui croient en Dieu au jour dernier. Rappelle que notre Dieu et votre Dieu est le même. Alors, mais où est donc, à côté de cela, où est le hic? Il y a d'autres versets qui disent que la religion pour Dieu, c'est l'islam. Alors, la religion pour Dieu, c'est l'islam. Pour certains, a été comprise que, voilà, la religion pour Dieu, c'est l'islam, c'est ça. Et on l'a comprise d'une manière exclusiviste en disant, c'est bon, c'est stop, ça veut dire que c'est bon. Hors de l'islam, point de salut. La religion pour Dieu, c'est l'islam. Et puis, et ils ont fini par expliquer les autres versets qui promettent le salut aux gens du livre en disant, voilà, ça c'est pour les gens du livre qui étaient croyants avant l'islam. Mais quand l'islam est venu, tout le monde doit devenir musulman. Donc, c'était la position exclusiviste. Or, nous avons aussi une autre position, qui est une position plutôt inclusiviste, qui explique l'islam au sens large. La religion pour Dieu, c'est l'islam, dans le sens où l'islam, selon son explication par le Coran lui-même. Parce que la sourate 4, l'islam est expliqué comme étant cet abandon confiant à Dieu tout en décidant de faire le bien. C'est la religion d'Abraham. C'est le verset 125 de la sourate 4. Donc l'islam au sens large serait ce noyau de différentes religions au monde où on a cette foi en Dieu et cet abandon confiant en Dieu et cette décision de faire le bien, ou en prenant cette responsabilité de faire le bien dans ce monde. Donc lorsqu'on résout cette question, la religion pour Dieu, c'est l'islam, ça ne... Donc, on n'a plus de contradiction apparente entre ce verset et les versets qui promettent le salut aux gens du livre. Et donc, la religion pour Dieu, c'est l'islam au sens large. Une autre manière d'interpréter aussi, c'est la meilleure religion pour Dieu, c'est l'islam, et ce qui est légitime, sans pour autant que les autres religions soient dénigrées. Les autres religions sont elles aussi des voies de salut, pas aussi efficaces que l'islam, mais elles sont aussi des voies de salut. Donc on peut garder, pour garder le sens des deux versets. Celui qui promet le salut aux gens du livre et celui qui dit la religion pour Dieu, c'est l'islam. Donc ça, c'est sur le registre du dogme de l'autre. Sur le registre des relations, c'est ici qu'on va trouver des versets qui appellent à se sentir comme une seule communauté avec les autres religions, puis des versets qui vont appeler à la méfiance et à la guerre. Mais aussi, mon travail chronologique a permis aussi de montrer que ce n'est pas le fin mot du Coran. Ça ne se termine pas là. Ça ne se termine pas sur le registre des relations. La révélation ne se termine pas aux relations tendues, aux guerres et à la méfiance, mais se termine sur un appel à l'ouverture et un appel à la convivialité, à manger ensemble, à se marier les uns des autres. La lecture traditionnelle dit à ce que les hommes musulmans épousent les femmes des religions du livre, mais une lecture nouvelle des théologiennes musulmanes est que c'est permis pour les deux, donc hommes et femmes. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je pense que je vais prendre un peu moins qu'un quart d'heure pour ouvrir. Mais avant cela, j'aimerais donc mentionner le dernier chapitre intitulé « De l'État musulman aux citoyens musulmans ». C'est très important pour moi ce dernier chapitre parce que ça s'inscrit aussi dans mon travail quotidien. Dans ce que nous faisons aussi à Adyan. Aujourd'hui, nous avons en monde musulman des textes qui sont apparus à partir, après le 11 septembre, nous avons une série de textes qui appellent soit au dialogue, soit aux valeurs communes entre les religions. Mais aussi à partir de 2011, avec la période du printemps arabe, des révolutions donc arabes, nous avons de nouveaux textes. Des textes qui, par exemple, sont sortis de Al-Azhar. Al-Azhar qui est l'instance sunnite la plus reconnue, en fait. Donc en islam, nous n'avons pas... de pape, nous n'avons pas de représentant, mais un des plus importants représentants serait l'imam d'Al-Azhar. D'ailleurs, c'est lui qui a signé la charte de la fraternité avec le pape à Abu Dhabi il y a quelques mois, donc comme figure emblématique. Donc de Al-Azhar, de l'imam d'Al-Azhar avec des intellectuels égyptiens, nous avons une série de déclarations qui sont très intéressantes. La première, c'est une déclaration en 2011 qui est sur le futur de l'Égypte. Et cette déclaration parle de démocratie. Donc c'était tout récent. On n'avait pas encore de document, de position officielle musulmane qui va parler de démocratie. 2012, un nouveau texte aussi. Promulgué par Al-Azhar, qui va parler de liberté religieuse. Et même de liberté de conscience, quelque part, en train de dire on n'a pas, personne n'a le droit d'aller chercher dans la conscience de l'autre. Donc, un petit paragraphe, en fait, sur la liberté, parce que c'était sur les libertés. Donc, il y a liberté donc, de recherche scientifique, liberté de créativité, et liberté de religion. Donc, c'était aussi du jamais vu, cette déclaration. En 2014, il y a eu un grand colloque organisé par Al-Azhar, auquel ont été invités aussi des représentants chrétiens donc de la région, des évêques. Et c'était pour contrecarrer le terrorisme et l'extrémisme. Et ce texte, et je suis fière de dire qu'il y avait aussi des Libanais qui étaient derrière l'écriture du texte, il y a un paragraphe dans ce texte qui est fondamental parce que ce paragraphe dit que l'importance, c'est les droits de l'homme. Et tout État qui défend les droits de l'homme a sa légitimité en islam. C'est fondamental. C'est comme si nous étions en train de dire indirectement que plus besoin d'État musulman. Il y a 100 ans, à la chute de l'Empire ottoman, il y avait des intellectuels musulmans qui disaient « on n'a pas besoin d'un État, l'islam c'est une religion, ce n'est pas un État », mais ils ont été mis au banc. 100 ans plus tard, Al-Azhar, qui avait mis au banc Ali Abdelrazak qui avait dit ça, reprend, donc indirectement, mais reprend cette position. Donc, c'est des positions fondamentales. 2017, Al-Azhar a un autre texte qui est sur égalité et vivre ensemble, entre chrétiens et musulmans surtout. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que quand ces textes parlent de chrétiens, ils les appellent chrétiens, masihiyoun, et pas nasara. Ça veut dire qu'ils utilisent le terme qui n'est pas le terme qui était utilisé par les musulmans jusque-là. Le terme coranique pour signifier les chrétiens, c'est Nasara, et qui a été utilisé dans toute la tradition. Mais récemment, donc, dans les rencontres de dialogue, les musulmans ont appris que les chrétiens n'aiment pas cette appellation en langue arabe, mais préfèrent être appelés Masihiyoun. Et ces textes, donc, sont en train d'utiliser l'appellation que les chrétiens demandent. Donc c'est important aussi, c'est une nuance importante. Donc ce texte aussi va parler de citoyenneté, d'égalité entre chrétiens et musulmans, et en disant qu'en fait, il faudrait dépasser l'appellation de minorité, parce que quand on parle de minorité, ça veut dire que c'est des groupes qui n'ont pas des droits égaux. Donc, quand on a des droits égaux citoyens, on n'aura plus besoin d'utiliser le terme de minorité. Donc, à côté de ces textes qui ont été, ces déclarations qui viennent d'Al-Azhar, on a une autre déclaration qui a été assez connue, qui est la déclaration de Marrakech avec le roi du Maroc, le cheikh Abdallah Ben Beya qui vient de Mauritanie, lui, mais qui vit actuellement aux Émirats arabes. Et dans cette déclaration de Marrakech, l'idée, c'était de dire que la citoyenneté et une citoyenneté inclusive de la diversité n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été fait par le prophète lui-même à Médine, parce que la charte de Médine prend en compte les musulmans, les juifs et les polythéistes et leur donne donc les droits dans la ville de Médine. Et ces déclarations sont très importantes. C'est nouveau, elles sont en train d'ouvrir un nouveau chemin en islam. C'est, même si jusqu'à maintenant, c'est seulement des déclarations, elles ne sont pas encore entrées dans l'éducation religieuse. Mais c'est très important qu'on commence à les avoir. Avec la nouvelle charte de la fraternité, que je n'ai pas mentionné dans le livre parce qu'il est sorti avant, mais c'est très important de savoir qu'il y a ces avancées. L'islam actuel n'est pas n'est pas unifié. Nous avons différents courants dans l'islam actuel. Il y a l'islam traditionnel qui maintenant essaye donc d'avancer dans ce sens donc de citoyenneté, de liberté, mais qui est aussi beaucoup imprégné par l'islam salafi, par la pensée salafi qui est beaucoup plus rigoureuse, qui s'est infiltrée en fait dans la pensée musulmane sans qu'on s'en rende compte à partir des années 80 et qui s'est assez répandue, même si les gens eux-mêmes n'appartiennent pas à des courants salafi, mais des idées de cette pensée salafi sont entrées dans la pensée traditionnelle. Donc il y a un travail à faire, il y a encore un long chemin à faire, mais déjà on a ces bases dans ces textes. Pour moi, c'est pour ça que j'ai intitulé de l'État musulman au citoyen musulman. C'est-à-dire, on a commencé à avoir ce passage d'une pensée qui voulait toujours un État au nom de l'islam à une pensée qui essaye maintenant de réfléchir comment on peut être bon citoyen musulman. L'imam d'Al-Azhar, lorsqu'ils ont signé la charte donc de la fraternité, j'étais là-bas, j'étais à Abu Dhabi quand il y a eu cette signature. Il y avait une parole du pape et une parole de l'imam d'Al-Azhar. L'imam d'Al-Azhar a envoyé des messages aux musulmans dans le monde arabe d'aller vers les chrétiens, aux chrétiens du monde arabe en leur disant vous êtes originaire de cette région, vous n'êtes pas des invités, c'est vous êtes ici, vous êtes originaire de cette région, aux musulmans en Europe de suivre les lois des pays dans lesquels ils sont, pas s'assimiler, de s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles ils sont. Et aux deux ensemble, d'œuvrer ensemble, de se rappeler que nous avons tout un fondement de valeurs communes sur lesquelles nous pouvons construire ensemble. Et je pense que je vais m'arrêter ici pour qu'on ouvre un peu pour questions et réponses.
Excusez-moi. Je remerciais Naïla pour sa parole. Je crois qu'elle nous donne vraiment le goût de lire son livre et d'approfondir. Mais je disais aussi merci pour cette parole libre venant de ta propre foi musulmane et qui, je crois, déconstruit beaucoup de préjugés, de poncifs, de choses qui se disent. Hein. Au fond, en tant que femme, sachant que nous ne sommes que la moitié de l'humanité, ça donne un regard autre. C'est pas seulement ni d'abord des valeurs qui seraient féminines, mais c'est le sens que personne n'est la totalité. Hein. Alors, sûrement, vous avez quelques expériences, questions, réactions à adresser à Naïla. On va procéder de la manière suivante. Hein. On va prendre 3-4 questions ou réactions. Et puis, Naïla répondra, hein, ou reprendra. Oui. Oui. Ça, on devrait pouvoir entendre. Merci. Tu veux prendre ces deux questions sur l'interprétation et puis sur
oui, parce qu'il y a une oui, il y a déjà exclusive. Une troisième. Oui. D'accord. Alors je reprends la première question. Je vous remercie de d'avoir soulevé cette question. Beaucoup de fois, nous, comme musulmans, nous entendons de la part de nos amis chrétiens en nous disant ça ne va pas. Tout ce que vous essayez de faire, ça ne va pas. Il faut aller au statut du texte. Il faut reprendre le statut du texte et voilà, faire comme nous, chrétiens, on a fait et remettre en cause vraiment toute la question de ce que signifie la révélation. Dire que votre texte est une dictée divine ou que... Alors, premièrement, le texte du Coran, quand on parle de descente ou de... Ça ne signifie pas que c'est un livre tel quel qui est descendu, paf, sur la tête du prophète. Non. Quand on parle de révélation, cette révélation, c'est une révélation sur 23 ans. C'est une révélation qui arrivait, qui parvenait au prophète au fur et à mesure, qui était en relation avec les circonstances. Nous avons des versets, bien sûr, à portée universelle, et d'autres versets qui parlent du contexte lui-même. Donc, d'où on a quelque chose qu'on appelle les circonstances de la révélation qui nous permettent d'expliquer le texte. Donc, première chose, c'est pas un texte qui est descendu comme ça. C'est tout un phénomène, la question de la révélation, donc selon l'islam. C'est pas quelque chose qui était facile. Même la sunna ou la tradition qui rapporte que ce qui se passait en Mohammed lorsqu'il avait la révélation, c'est un mouvement, c'est un moment très très fort où il avait froid et en même temps il était en sueur. Donc il y a tout un processus en fait qui se fait lors de cette révélation qui est sur 23 ans. Donc juste pour corriger cette question qui n'est pas descendue du ciel de cette manière, je sais que c'est difficile à comprendre, tout comme pour les musulmans, c'est difficile de comprendre la filiation divine, mais c'est donc la manière musulmane de comprendre comment Dieu nous a parlé à travers ce texte. Alors, en islam, le texte, donc, comme vous l'avez dit, il a une autre teneur parce que c'est la parole divine. Par l'intermédiaire, bien sûr, humain et angélique aussi, mais c'est la parole divine. Donc, c'est différent du statut, par exemple, des évangiles, qui sont une parole divine, mais inspirée à travers des personnes qui le disent d'ailleurs. Nous allons raconter. Donc, c'est différent. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, pour l'islam, le Coran, c'est la parole de Dieu. Pour le christianisme, le Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, pour les chrétiens, remettre en cause ou remettre en question le statut du texte n'est pas un problème, parce qu'il y a l'événement Christ. Il y a l'événement Jésus-Christ. C'est ça ce qui est central. Alors que pour l'islam, ce qui est central, c'est le Coran. Vous voyez, il y a des nouveaux penseurs aussi, des herméneutes, qui ont essayé de dire que voilà, la révélation, comme elle est expliquée, peut signifier aussi inspiration. Nasser Hamed Abou Zayd a dit que le Coran, il a utilisé une terminologie chrétienne pour dire qu'il est à 100% humain et à 100% divin. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui est aussi humaine et culturelle qui est entrée dans le Coran. Mais ça n'a pas du tout été accepté. Il a été, bien sûr, considéré comme apostat. Donc, ce n'est pas en essayant de remettre en question le statut du texte qu'on peut faire avancer les choses. C'est pour ça que toutes les personnes qui veulent faire une réforme à l'intérieur de l'islam disent que ce n'est pas en questionnant le statut du texte, parce que en le faisant, peut-être que intellectuellement, les chercheurs, les penseurs musulmans peuvent accéder à cette pensée, mais ce n'est pas une pensée qui peut être partagée avec tous les musulmans, sinon il y a un refus. Donc c'est à travers l'interprétation, en changeant l'interprétation, qu'on arrivera à changer et pas en remettant en question le texte lui-même. Pour changer l'interprétation. Mais en revenant, en fait, il y a des choses qui parfois d'elles-mêmes tombent. Par exemple, il y a des versets dans le Coran qui parlent d'esclavage. Ces versets, quand il n'y a plus d'esclavage, personne n'en a parlé, sauf Daesh qui en a parlé. Mais donc ça tombe d'eux-mêmes. Il y a des choses où on dit c'est un problème pour nous aujourd'hui, ça tombe. Et nous pensons que pas mal de questions relative à une certaine injustice sociale, surtout par exemple dans la question des hommes-femmes, tomberont avec le temps aussi. Les anciennes interprétations, ou même par exemple le texte où il est question de violence conjugale. Ça, avec le temps, avec les nouvelles interprétations aussi, ces textes seront mis de côté finalement. avec le temps. Tout comme le texte de saint Paul qui dit que les femmes doivent se taire et se couvrir. C'est pas tout.
Oui, il y avait une autre question.
Oh, d'accord. Alors, on avait ça.
Sur les relations entre les religions et qui sont mutuellement
exclusives. Et il y avait quelque chose sur l'interprétation. Donc, quand vous avez parlé d'interprétation qui est limitée parce que le texte est divin, ce n'est pas vrai. Au contraire, l'interprétation n'a pas été limitée. C'est pour ça que j'ai regardé M. Laurie, parce que, en fait, l'interprétation dans l'histoire de l'islam, et c'est ce qu'il enseigne, est très, très riche. Nous avons beaucoup d'interprétations. Ce qui s'est passé, c'est que les représentants de l'islam officiel ont prisé certaines interprétations par rapport à d'autres. Mais nous avons tout un éventail d'interprétations coraniques qui continuent jusqu'à aujourd'hui, avec deux interprétations faites par des femmes au siècle dernier, juste pour mentionner. Vous avez posé aussi la question concernant Mecque et Médine. En fait, je vous invite à lire le chapitre 5 ou aussi à voir l'autre livre, L'Hospitalité divine, où en fait j'ai avancé quelque chose de neuf sur les temps ou phases du Coran, parce que généralement on divise qu'il y a l'époque mécoise puis l'époque médinoise du Coran. L'époque mécoise, c'est l'époque où les musulmans étaient persécutés. Donc c'est le début de la religion, puis cette persécution des musulmans. L'époque de Médine, c'est l'époque où on a plutôt les lois et les guerres qui vont avoir lieu avec les polythéistes de la Mecque et aussi avec certaines tribus juives de Médine. Et donc, donc ce que j'ai pu voir en étudiant les versets qui parlent des autres religions et de cette relation à l'autre chronologiquement, j'ai pu voir qu'il y a une troisième partie. Et que c'est cette partie, après les guerres, qui va appeler, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ouverture, qui va rappeler que le salut est promis aux gens du livre, qui va appeler aux relations conviviales les uns avec les autres. Donc, je vous invite à lire ça. Pour la question des religions qui s'excluent mutuellement, mais ça dépend de la théologie. C'est pour ça qu'on a la théologie des religions. Donc, il y a dans la théologie des religions l'exclusivisme, qui est une position qu'on retrouve dans les diverses religions, mais on a aussi des positions inclusives ou bien pluralistes. Ça veut dire qui essaye de l'intérieur de la religion, tout en disant que ma religion peut-être est la meilleure, accepte que les autres religions sont aussi des chemins de foi et de salut.
Oui, je crois que toute religion importante, elle est de soi universaliste. Il ne faudrait pas dire que c'est seulement certaines religions qui sont universalistes et exclusivistes. D'autres points ? Oui ? Alors, il y a d'autres questions, mais on va peut-être déjà prendre celle-là parce que.
D'accord. Très bien. Donc, on reviendra. Oui. Donc, je reviens à ce que vous avez dit. Je reviens à la fin de ce que vous avez dit, en fait. Et cette question, donc, d'islam rationnel ou de Coran rationnel. Et voilà, on se regardait comme ça un peu incrédule de ce que vous étiez en train de dire parce que. Et puis, je me suis dit, peut-être que vous êtes en train de penser surtout à, aux missionnaires ou aux prosélytes musulmans qui essaient de dire, voilà, la religion musulmane, elle est très, très claire, voilà, Dieu a envoyé son livre, on a une série de prophètes, Mohammed est le dernier prophète, il faut faire 5 prières par jour, jeûner, et tout est bon. Je ne sais pas si vous parliez de ça, mais en tout cas, ça, c'est une dénaturation de ce qu'est l'islam. Le texte du Coran n'est pas un texte rationnel, pas du tout. C'est un texte qui est poétique, qui est... on peut dire beaucoup de choses sur le texte, mais ce n'est pas du tout un texte rationnel. Même les histoires qui sont racontées dans le Coran ne sont jamais racontées du début à la fin. Si on veut trouver l'histoire de Moïse, il faut la récolter ici, là, 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 là. Et chaque fois, c'est par bribes. Et parfois, des éléments divers sur une même histoire. Donc, ce n'est pas du tout rationnel. Lorsqu'on parle de foi, lorsqu'on parle d'une démarche de foi, je pense que dans n'importe quelle religion, c'est la même démarche. Il y a une logique interne pour chaque religion qui est différente de la logique universelle. Mais ce n'est pas, ce n'est jamais rationnel. 1 plus 1 égale 2. Je vous invite à aller prendre des cours avec Monsieur Laurie sur l'interprétation mystique du Coran, qui n'a rien à voir avec une interprétation rationnelle. C'est toute une interprétation basée sur l'expérience personnelle des commentateurs dans leur relation avec Dieu. C'est un monde.
Peut-être aussi qu'on peut faire attention quand on pose des questions à une autre croyance, une autre religion, de se dire, mais si on me posait la question à moi, est-ce que je ne peux pas renvoyer cette question-là à moi-même? Parce que la question de la rationalité de l'interprétation, dans l'exégèse, en christianisme, elle se pose aussi. Vous voyez, donc je crois qu'il y a peut-être des points de méthode auxquels faire attention. Mais tu avais d'autres questions?
Oui, bien sûr. Alors Rome, mais là, il faut m'arrêter, parce que Rome, j'aime en parler. L'expérience, c'est une des expériences les plus fortes, en fait, de ma vie. Pour la replacer dans le contexte, donc je faisais des études universitaires à l'université, j'ai fait des études à l'université américaine, puis je suis allée à l'université Saint-Joseph, qui était de l'autre côté de Beyrouth. Même si la guerre était terminée, il n'y avait plus de ligne de démarcation entre les deux, c'était toujours de l'autre côté. Et donc, il y avait très peu de musulmans. Donc, j'étais une des rares musulmanes à l'université, et c'est pour ça qu'un de mes profs m'invitait à participer à des rencontres de dialogue qui ne m'intéressaient pas beaucoup à ce moment-là. Mais j'étais un peu la musulmane de service qui venait à ces rencontres de dialogue. Et en fait, c'est grâce à ces rencontres que j'ai compris que c'était important. Moi, j'avais vécu dans un contexte assez mixte, mais que j'ai remarqué que ce n'était pas donné. Donc, je vivais dans un quartier qui était mixte, des écoles qui étaient mixtes, mais que ce n'était pas donné, et donc que j'avais une responsabilité dans le dialogue. J'ai continué, ce qui a fait que j'ai pu recevoir cette bourse pour aller à Rome. Donc, j'assistais à des rencontres de dialogue. Depuis que j'étais petite, j'allais à l'église avec mes parents pour soit des obsèques, soit des mariages, mais pas vraiment assister à la messe. À Rome, j'arrive, je suis là. Ça faisait partie, en fait, de mes études. Je suis là pour étudier. Donc, il fallait aussi que je participe à la messe. Et au tout début, je me posais la question. À ce moment-là, je portais un turban sur mes cheveux. Et donc, j'étais repérable. Donc quand j'entrais dans l'église, je me disais, maintenant ils vont savoir que je suis musulmane, ils vont me mettre à la porte. Alors personne ne m'a mise à la porte. Bon, je suis là, peut-être qu'ils prennent ça pour, c'était un turban, ça ne faisait, c'est pas vraiment voile, donc peut-être qu'ils prennent ça pour
une mode.
Donc, mais qu'est-ce qu'on va me dire? On va voir que je ne viens pas communier. Qu'est-ce qu'on va me dire? Et qu'est-ce que je dis? Mais personne ne m'a jamais rien demandé. Peu à peu, j'ai commencé à participer. À participer, à savoir quand, parce que je comprenais, donc quand je peux participer pleinement, ça veut dire quand je peux chanter les chants, ou et à quelle partie dans le chant me taire, parce que c'est différent de mes convictions religieuses. Donc, une fois que j'avais repéré ce que je pouvais prier et ce que je ne pouvais pas, mais où j'étais en silence, c'est là que j'ai vraiment eu un moment spirituel très fort, parce que j'ai compris que même quand j'étais silencieuse, je participais. Je participais avec les autres dans un même élan de prière. Et que cette prière, je l'envoyais avec eux chez Dieu. Et c'était vraiment des moments très émouvants je me suis mise à pleurer plusieurs fois et à plusieurs reprises, des gens venaient vers moi, tu veux te convertir. Mais j'expliquais que c'était le contraire, en fait. Parce que ce qui m'émouvait, c'est que avec nos différences de dogmes, on pouvait quelque part, au fond, s'unir dans cet élan qu'on envoie vers Dieu. Et là, l'expérience spirituelle était plus forte que mes questionnements. Parce qu'à ce moment, moi, quand j'avais récolté tous ces versets du Coran, j'avais vu qu'il y avait une contradiction entre des versets qui parlent de guerre et d'autres qui parlent d'amitié. Mais comment faire avec tout ça? Je ne savais pas. Je ne savais pas encore comment faire avec tout ça. Mais l'expérience spirituelle vécue était plus forte. Et qui m'avait transformée, et qui, c'est elle qui a décidé que j'allais donner ma vie à œuvrer pour la diversité, pour la rencontre, l'acceptation mutuelle des religions. Donc, merci de m'avoir posé cette question, parce que j'aime en parler. Rahma, la miséricorde, ça vient de Rahm. Rahm, c'est la matrice, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le miséricordieux, le tout miséricordieux, Rahman, Rahim, ces deux noms les plus importants qu'on répète tout le temps, c'est très féminin, c'est maternel. C'est materne, c'est juste, oui. Il y a maternant, il y a quelqu'un aussi qui a traduit matricien, matriciel. Merci aussi pour la question du sceau de la prophétie. Alors, le sceau de la prophétie, ça a été expliqué comme le dernier prophète. Mais une autre explication est possible. En fait, elle vient de chez les Baha'i, parce que la religion Baha'i est une religion qui dit que nous, on vient dans la même lignée de révélation et on continue. Donc, on a un autre après Mohammed. Donc Mohammed n'a pas scellé dans le sens où il a fermé la porte, mais il a scellé, ça veut dire qu'il a confirmé. Et en fait, c'est en harmonie avec d'autres versets du Coran qui disent que ça confirme que Mohammed est venu pour confirmer les autres religions. Donc c'est une interprétation possible, mais qui n'est pas du tout répandue, bien sûr. Oui, mais ça ouvre aux autres religions. Statut du hadith. Voilà. Alors merci pour cette question. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc les sources musulmanes, c'est le Coran, donc qui est texte divin, et le hadith, qui est les paroles du prophète Mohammed. De son temps, Mohammed, quand il y avait des scribes autour de lui qui écrivaient le texte coranique, il leur interdisait d'écrire ce que lui disait. Mais donc, il y a des croyants, 150 ans plus tard, qui ont dit, voilà, on va essayer de récolter ce qu'il a dit, parce que ça avait été retransmis oralement. Donc, c'est comme ça que le hadith a été récolté. Donc, à partir de 150 ans plus tard, des gens qui voyageaient allaient récolter ce que des gens avaient appris oralement d'un tel, un tel, un tel, un tel, que le prophète a dit ou que le prophète a fait. Alors, le problème, c'est que ça a donné donc un texte immense. Et bien sûr, qui ne sont pas les mêmes pour les sunnites et les chiites. Parce qu'il y a bien sûr une partie de texte qui est commune, mais des parties qui sont purement chez les sunnites et d'autres qui sont purement chez les chiites. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont transmis. Le problème, c'est que l'étude de ces textes, ou l'étude critique pour voir si ces textes sont bons ou non, c'est surtout fondé sur la chaîne de transmission, qui y a transmis. Bon, un peu sur le sens, mais beaucoup sur la chaîne de transmission. Et donc, quand on a dit qu'un tel, de un tel, de un tel, c'est bon, ça veut dire un tel a rencontré un tel, c'est probable qu'il l'a vu, il n'y a pas 100 ans de différence entre eux, donc c'est probable, c'est bon. Et donc, on a dit, voilà, ces hadiths sont considérés fiables ou moins fiables, mais passables. Le XXe siècle, et surtout, bien sûr, avec les interprétations féministes aussi, il y a eu tout un travail aussi sur le hadith pour essayer de faire une critique interne des hadiths en disant que voilà, mais ces hadiths qui disent que les femmes sont moindres que les hommes en religion et en intellect, c'est des hadiths qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on trouve dans le Coran, ni à la manière dont Mohammed a agi avec les femmes, puisqu'il encourageait les femmes à apprendre à lire et à écrire. qu'il y avait des femmes qui avaient des copies du Coran ou de parties du Coran. Donc, ça ne s'accorde pas. Donc, aujourd'hui, il y a une critique plutôt interne du hadith. Il y a trois positions, en fait. Il y a des gens qui prennent le hadith tel quel, refusent qu'on fasse une critique. Il y a une autre position qui dit, on jette tous les hadiths. Donc, on ne les prend plus parce qu'ils ne sont pas du tout fiables. Donc on appelle ces coranistes qui seulement œuvrent sur le Coran. Et une troisième position qui dit, il faut être critique. Donc, on prend les hadiths qui s'accordent avec le message coranique et les hadiths. Non, en fait, dans la tradition, les deux textes ont leur poids. Donc, ont eu leur poids. Donc, le Coran et le hadith ont leur poids. Ce n'est pas seulement pour chercher des solutions. C'est les textes qui nous disent, qui donnent les explications pour la foi elle-même, des valeurs. Donc, ce n'est pas seulement pour trouver des solutions. Vous parlez plutôt de fiqh, de jurisprudence. Et c'est là où on essaye de trouver. Mais finalement, le hadith a pris beaucoup d'ampleur, autant que le Coran, dans la tradition des juristes.
Il y a d'autres questions, mais tu peux peut-être prendre tout de suite la question de « Y a-t-il un texte reconnu par tous ?»
D'accord. Alors, oui, mais ça, on n'appelle pas ça édition critique, en fait. D'accord. Donc, en fait, il y a des variantes du Coran. On appelle ça les sept lectures du Coran. Il y a des variantes du Coran qui ne sont pas connues de tout le monde. Mais jusqu'à récemment, on avait, par exemple, en Afrique du Nord ou dans les pays du Maghreb, une variante qui est différente de la variante qui était utilisée plutôt côté Égypte et les autres pays. Mais avec l'Arabie saoudite et tout l'argent qui est de l'Arabie saoudite, nous avons surtout la version de l'Arabie saoudite de 83 qui est la plus répandue aujourd'hui. Mais en fait, c'est ce que je vous dis n'est pas du tout connu parmi les musulmans. C'est seulement connu parmi les gens qui ont les sciences islamiques. Pour moi, en tant que musulmane, quand j'ai appris qu'il y avait des variantes du Coran, j'ai fait un choc pendant 2 ans. C'est parce qu'on apprend que c'est le même texte et qu'il n'y a pas de, variante. C'est le même texte. Et donc, et finalement, c'est presque le même texte aujourd'hui qui est utilisé partout. Donc, il y a toute une histoire du corpus du Coran et son évolution.
De la révélation. Peut-on dire qu'il y a une révélation?
Oui, ça c'est différent. Donc, en fait, il y a aussi, Abdelmajid Shafi a relevé certains hadiths qui démontrent que du temps du prophète lui-même, quand on venait, les scribes qui venaient chez lui et lui disaient les versets avec des petites variantes dans les versets, il disait OK pour les deux. Donc, mais même avec cela, ça laisse. Peut-être c'est une interprétation un peu moins rigide de ce qu'est la révélation, mais ça reste révélation, même pour les savants qui connaissent qu'il y a des variantes.
Il y avait d'autres mains qui se levaient. Oui, madame au fond, Fernando, et puis, oui, madame.
Vous pouvez hausser la voix, s'il vous plaît.
Voilà, merci.
Exactement. Donc, peut-être que je n'ai pas été assez claire pour dire qu'aujourd'hui, il y a tout un travail de féministes musulmanes qui reprennent cette question pour dire qu'aujourd'hui, il faut donner une part égale d'héritage. Mademoiselle, je vous répondais. Donc, mais je vous invite à aller lire aussi Asma Lamrabet que je cite ici et de voir aussi ce qui se passe en Tunisie parce qu'aujourd'hui il y a un projet donc de loi pour changer la loi pour dire basé sur une nouvelle interprétation de ce verset et d'autres versets qui parlent de part pour hommes pour garçons et filles. et deux versets qui parlent aussi de testament, donc demander qu'il y ait un héritage égal pour filles et garçons, donc aussi d'aller consulter ce qui se passe en Tunisie. Comme ça, vous pourrez répondre à votre frère.
Oui. Oui, si vous voulez bien, madame. Oui, mais c'est presque la fin et il y a encore deux personnes qui aimeraient parler. Oui.
Très bien. Je la soutiens. C'est, d'accord. Alors, voilà. Aussi pour la question de la charia. Aussi, mademoiselle, pour vous. Alors, la question de la charia aussi a été repensée par beaucoup de nouveaux penseurs au XXe siècle, d'accord ? Ce qu'on appelle, ce qui a été appelé par les juristes la charia, comme si ça venait de Dieu, en fait, c'est la jurisprudence qui a été faite par des hommes au Moyen Âge. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de dire que, voilà, c'est pas seulement une interprétation des textes, mais c'est aussi pour annuler des choses qui sont dans le fiqh, qui sont fait par des hommes, en fait, et alors que l'enseignement nous a fait comprendre que c'était, voilà, comme si c'était une charia, une loi qui venait de Dieu, alors que c'est des analyses et des décisions qui ont été faites par des hommes. Karina Bahloul, bien sûr, je la soutiens à 100%, je soutiens l'association et leur travail aussi. En fait, ils veulent une mosquée où hommes et femmes guident la prière pour hommes et femmes ensemble. Une chose, cependant, que je dis toujours, le plus important pour moi que la guidance de la prière, parce que vous savez que la prière musulmane, c'est en fait, c'est des gestes. Donc, on n'ajoute rien. Si on est homme ou femme, on n'ajoute rien quand on guide. Mais plus important encore, c'est le sermon. Donc, dans cette mosquée, il y aura un sermon une fois par une femme, une autre fois par un homme. Ça se fait aussi dans d'autres lieux, bien sûr, pas dans les sociétés à majorité musulmane, plutôt en Amérique du Nord. Donc, c'est très important qu'on puisse entendre des sermons par des femmes. C'est là où on a des femmes qui peuvent ajouter quelque chose. Pour la dernière question concernant les réponses ou comment mon travail est accueilli. Bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, l'islam aujourd'hui, c'est des islams. Nous avons beaucoup de différents groupes à l'intérieur de l'islam. Donc, lorsque je parle, par exemple, de théologie politique, ce que j'avance en théologie politique ou ce que j'avance concernant la théologie de l'autre, c'est des points assez chauds. Hein. Donc, ils sont pas du tout acceptés par la tendance salafi ou la tendance de l'islam politique, mais peuvent être acceptés par les autres tendances dépendamment des personnes. Donc, la tendance traditionnelle, la tendance soufie ou bien sûr la tendance libérale. Donc, un exemple, je vais vous dire par exemple sur les réactions, parce que sont moindres sur les écrits, sur ce livre, il est en français. Oui. Donc, il est lu seulement par des francophones dans nos pays. Donc, je n'ai eu que des réactions positives là-dessus. Sur un autre livre, donc sur la théologie, donc l'hospitalité divine que nous avons coécrit avec Perfadi, j'ai deux genres de réactions sur le livre lui-même, par les penseurs, par les personnes qui sont qui ont des études, je veux dire, même les études traditionnelles, par ces personnes-là, le livre reçoit de bonnes critiques et de bonnes révisions. Cependant, par des personnes qui sont moins éduquées ou qui sont dans l'option islam politique, non, je ne reçois pas de bonnes réponses. Ils ignorent, en fait, mon travail. C'est pas que je reçois des réponses négatives, mais ils ignorent. Cependant, quelque chose d'intéressant, c'est qu'à ADN, dans notre fondation, nous avons des petits films que nous faisons, que nous mettons en ligne. Et donc, nous avons décidé une fois de parler un tout petit peu, Perfadi et moi, de ce qui se trouve dans ce livre, mais vraiment très peu. Donc, moi, je disais tout simplement que dans mon étude des versets du Coran, le Coran n'appelle jamais les gens du livre, donc les chrétiens ou les juifs infidèles, mais les appelle gens du livre, tout simplement. Rien de plus. Mais j'ai été attaquée d'une manière. Alors, et c'est parce que c'est très répandu. Nous avons 36 millions de personnes dans le monde arabe qui réagissent sur ce. Donc, il y avait bien sûr des gens qui disaient bravo, c'est parfait, c'est très beau, mais d'autres qui attaquaient carrément. Et bien sûr, quand on est une femme, on est attaquée en premier lieu. Je suis attaquée, bien sûr, parce que je n'ai pas le voile aussi. Donc, ça choque déjà que je parle de religion. Et deuxièmement, quand on est une femme, donc le genre d'attaque va à la cuisine. Les pauvres, ils ne savent pas que je ne sais pas du tout cuisiner. Mais bon, donc...
Merci beaucoup, Naïla. On va être obligé de s'arrêter là. Merci de ta foi. Merci de ton écoute. Merci de ta connaissance de l'islam qui permet de répondre et puis de nous ouvrir des horizons. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que Naïla peut maintenant signer quelques livres. Notre libraire est arrivé pour pouvoir, pour que vous puissiez vous procurer le livre et Naïla le signera.